le pain et l'eau, la base même de ce qu'il faut pour vivre et survivre. Alors je vais demander peut-être, je ne sais pas si vous arrivez à lire les versets qui sont affichés, on va faire un PowerPoint comme ça. Ah, là, vous regrettez de vous être assis là-bas. Bon, je vais demander peut-être à deux personnes de distribuer les versets pour nous accompagner durant ce culte. Ce message. William, allez, au boulot. Oups, Daniel va t'aider aussi, mais pas ton frère Daniel, Daniel, l'autre. Voilà. Et nous allons nous pencher sur la question de la soif du Dieu vivant. Le texte qui va nous servir de base, c'est la rencontre, mais juste quelques versets, on ne va pas détailler cette rencontre, de Jésus avec la Samaritaine. Et ça se passe autour d'un puits. Et nous allons voir qu'il y a différents points d'eau où nous pouvons trouver de l'eau, mais que ces différents points ne vont certainement pas nous désaltérer comme ils nous le promettent. Hein. Vous savez, il y a un politicien qui disait « L'important, c'est de faire des promesses, et c'est tout. » Hein. Dieu est un Dieu qui fait des promesses et qui tient ses promesses. La différence est là, elle n'est pas simple, elle n'est pas minime. Jésus lui dit, il dit à la femme samaritaine, il lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui... » Il n'y en a plus ? C'est bien, tu as tout vendu. Tu travailles mieux que Daniel. Tu viendras pour le pourcentage après. Ah Daniel, c'est dommage, tu es passé à côté de la prime. Merci encore. Donc, Jésus dit, répondit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Que le Seigneur ouvre notre cœur à sa parole. Alors voilà que cette discussion se passe autour d'un point d'eau. Il s'en passe des choses autour d'un point d'eau. Hein. Jacob a rencontré voilà, Rachel et Léa, hein, entre autres. Hein. Le serviteur d'Abraham a rencontré Rebecca. Beaucoup de choses. Et il y a une discussion qui est très particulière avec Jésus et une femme. Et c'est un homme particulier qui parle. Et il lui donne une révélation particulière. Il y a un contraste saisissant. L'eau puisée à la force des bras avec l'eau donnée gratuitement. L'eau qui peut être polluée, contaminée, avec une eau toujours fraîche et pure. De l'eau qui désaltère de manière temporaire. Avec une eau qui désaltère de manière éternelle, de l'eau stagnante avec une eau qui jaillit. Jésus a vraiment mis le doigt sur ce contraste. Donne-moi de cette eau. Ah, donne-moi de cette eau. Alors, on va voir trois différents points d'eau. Le premier, c'est la citerne des œuvres. Est-ce qu'elles nous satisfont, ces eaux ? De cette citerne, et puis on verra le puits de la sagesse et la fontaine des miracles. Alors la citerne des eaux, la citerne des œuvres, ah, ça c'est, vous savez, pour combler notre soif, on se jette dans les activités. Activité, activité. Vous savez ce que dit notre monde ? Vas-y, fais. Notre monde nous dit, tu es ce que tu fais. Et la grande question c'est, qu'est-ce que je vais laisser dans ce monde ? Et nous sommes comme un peu des Nebuchadnezzar, on érige une statue, afin que le monde se souvienne de nous. C'était l'histoire d'un gars qui avait reçu dans un grand carton une coupe. Et c'était une coupe qu'il avait gagnée quand il était à l'université. Et quand il a regardé cette coupe, c'est un chrétien, hein, il a dit, c'est tout, L'université ne garde plus cette coupe, c'est marqué, on est en train de faire du débarras, on a eu vos coordonnées, on vous envoie cette coupe. Plus personne n'en voulait. Mon frère, ma sœur, tout ce que nous pouvons construire, à un moment donné, plus personne n'en voudra. Parce que nous ne sommes pas ce que nous faisons. Deux Chroniques 13:11, le faire aussi dans la religiosité. Nous offrons, dirent les sacrificateurs, chaque matin, chaque soir, des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum de bonne odeur. Nous mettons en rangée le pain sur la table pure et nous allumons chaque soir les chandeliers d'or et ses lampes. Ah, voilà des personnes qui se vantaient de faire des choses pour Dieu. Faire pour Dieu. Qu'est-ce que le brigand à la croix a pu faire pour Jésus? Si nous devions être sauvés par les œuvres, il serait déjà perdu. Jésus aurait pu dire, tu n'as pas de place avec moi, puisque tu ne peux rien faire. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Le problème, c'est que nous trouvons quand même une satisfaction dans les œuvres. Parce que ça nous valorise. Nous avons l'impression que ça nous met en lumière. Mais le problème des œuvres, c'est que les œuvres demandent toujours plus. Elles nous demandent d'aller toujours plus loin, de donner toujours plus et de donner toujours ce qui est plus coûteux. Si notre vie spirituelle se limite à des faire, alors il n'est pas étonnant que nous tombions dans une sorte de compétition. Telle personne fait ça, je veux faire mieux. Tel groupe fait ça, on va faire mieux. Telle église a fait ça, on va faire mieux. C'est plus une relation fraternelle, c'est une relation de compétition. Dans le livre de l'Apocalypse, je suis étonné du message que Jésus adresse à deux églises entre autres, l'église d'Éphèse et l'église de Laodicée. À ces deux églises, il dit, je connais tes œuvres. Bien sûr, on peut faire des œuvres, et on les fait pour Dieu, n'est-ce pas? Et il ajoute, je connais ton travail, et je connais ta persévérance. Si le Seigneur me disait ça, je dirais, ouais, génial, merci. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah, voilà là. Ici, la citerne des œuvres, ah, elle est vide. Si nous abandonnons notre premier amour, nos œuvres n'ont plus de sens. Elles sont vides. L'église de Laodicée, je connais tes œuvres. Et tu dis, je me suis enrichi. Et que tu n'as besoin de rien. Mais en réalité, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quand même. Bien sûr, les œuvres sont importantes. Mais si ta valeur aux yeux de Dieu, c'est ce que tu fais, eh bien, alors il y a un problème. La valeur que Dieu cherche dans ton cœur, c'est la foi, avant les œuvres. La foi toujours avant les œuvres. Si notre vie spirituelle est basée sur ce que nous faisons, si nos sentiments sont fondés sur nos œuvres, alors nous sommes en train de marchander avec Dieu. Comme Jacob, quand il a quitté le pays de ses parents pour se rendre auprès de Laban, il a dit, si tu me donnes ceci, ceci, moi je te donnerai la dîme de mes revenus. Une citerne crevassée, que dit Jérémie? Jérémie 2,13, car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Le double abandon, c'est l'abandon du vrai Dieu et se tourner vers des idoles. Mon frère, ma sœur, que jamais une œuvre ne remplace Dieu dans nos vies. Il est plus important que l'œuvre. On parle souvent de l'œuvre du Seigneur et c'est une chose, mais regardons d'abord le Seigneur de l'œuvre. C'est lui que nous devons servir. Alors voilà que il y a un point d'eau qui peut nous attirer, c'est le puits de la sagesse. Ah, la sagesse. Quelle belle prière que celle de Salomon. Salomon était jeune et Dieu lui apparaît. qu'est-ce que tu veux, Salomon ? Alors on aurait peut-être répondu, moi je veux 10 vœux. Salomon il dit, je veux une chose, que tu me donnes la sagesse afin que je puisse gérer, juger ce peuple. Belle prière, et Dieu lui a accordé toute la science. On pourrait dire que Salomon était un puits de science. C'est une expression que l'on emploie quand quelqu'un est un génie dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines. Remarquez que cette sagesse ne l'a pas empêché de ruiner sa vie. C'est curieux, non? Comment avoir un tel don de Dieu et réussir à complètement ruiner sa vie? D'ailleurs, Ecclésiaste 1:18 dit, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de tracas. Et plus on a de science, plus on a de tourments. Alors, c'est merci qui m'a fait réfléchir quand j'étais jeune converti déjà. Dieu serait-il contre la sagesse, contre la science? Et puis, je me suis aperçu avec le temps que jamais, dans toute l'humanité, jamais, l'homme n'a disposé d'une aussi grande connaissance. Allez. Jamais la planète entière, avec toute cette connaissance, n'a vécu sous de telles menaces. On a eu une science tellement poussée qu'on est aujourd'hui capable de détruire cette planète, je ne sais combien de centaines de fois, ne serait-ce qu'avec la bombe atomique. Voilà où a conduit la sagesse de l'homme. Et Jacques nous met en garde. Jacques 3, 14 à 16. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie, amère, rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle. Et Jacques dit démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a discorde et toute espèce de pratique mauvaise. Voyez, au lieu de la douceur, la sagesse humaine a amené l'amertume. Alors vous avez été comme moi, vous avez peut-être un peu suivi les discussions entre les journalistes et les politiques. J'avoue que j'ai pas tenu beaucoup devant ces débats. Le politique avait ses réponses et le journaliste avait ses questions. Vous vous rappelez, pour les plus aînés là, un jour Georges Marchais avait dit « Vous êtes venu El Kabach avec vos questions et moi je suis venu avec mes réponses ». Un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds. Et on affronte rivalité, reproche, accusation. La sagesse humaine. Paul parle d'une sagesse du monde. Il parle d'une sagesse selon ce siècle, qui n'agit pas selon les principes de Dieu, mais sur des principes purement humains. On veut gagner, peu importe qui nous sacrifions. Alors je suis reconnaissant au Seigneur de ce que le week-end d'église au mois de septembre de rentrée aura pour thème « L'église n'est résolument pas une entreprise ». Parce que Dieu nous demande, bien sûr, d'user de sagesse, mais il nous demande une sagesse inspirée par lui. Vous vous rappelez ce que dit l'Épître aux Romains ? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui. Ils sont devenus fous. Nous ne pouvons pas pleinement satisfaire et sainement la soif de nos âmes qu'avec une connaissance et qu'avec de la sagesse humaine. 1 Corinthiens 18:1-21. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La sagesse de l'homme rejette la folie de la prédication. Mais c'est par cette prédication de la croix que Dieu nous offre le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Un salut gratuit, un salut accessible et un salut par grâce. Sadhu Sangha Singh, un chrétien d'Orient, qui disait ceci: depuis les temps immémoriaux, les hommes ont étanché leur soif avec de l'eau sans rien savoir de sa composition chimique. De la même manière, nous n'avons pas besoin d'être instruits grandement dans tous les mystères de la doctrine. Mais nous avons besoin de recevoir la source d'eau vive que Jésus nous donnera et qui est la seule à pouvoir satisfaire nos âmes. Après la citerne des œuvres, le puits de la sagesse, eh bien le troisième point, c'est la fontaine des miracles. Ah, les miracles! Qui d'entre nous n'a pas pensé un jour, ah, si Jésus faisait des miracles, encore comme il le faisait à l'époque, les gens se convertiraient, ils se rassembleraient dans les églises, et ils pourraient louer Dieu. Et le monde reconnaîtrait que Jésus est le Seigneur. On l'a pensé, non? En tout cas, moi, je l'ai pensé quand j'ai commencé mon ministère. Je disais à Dieu, fais des miracles remarquables, afin que les gens puissent avoir soif de toi. Mais que dit Jésus? Jésus dit, alors, 1 Corinthiens 1,22, c'est Paul, hein, les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. On recherche les miracles, on demande des miracles. Jésus répond dans, à ses adversaires, qui lui disent, Jean 6, verset 30, « Quel miracle fais-tu donc, afin que nous voyions et que nous te croyons? Quelle œuvre fais-tu ?» Chapitre 2, verset 18. Les Juifs, c'est-à-dire les responsables juifs, prirent la parole et dirent au Seigneur, « Quel miracle montres-tu pour agir de la sorte ?» Et quelle est la réponse de Jésus? « Nous qui souhaitons la gloire de Dieu. » Eh bien, Jésus répond, Jean 20, 29, à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Et regardez ce que dit Jean 12, verset 37. « Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. » Mes frères, ma sœur, heureusement que Dieu est un Dieu de miracles. Parce que sinon, ce livre n'aurait aucun sens. Mais si nous pensons que les miracles devraient être là en profusion, les gens se convertiraient, eh bien en réalité nous nous trompons. Si vous lisez la fin de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus laisse les dernières paroles à ses disciples, il est ressuscité, il est là devant eux, il le voit, il l'entend. Il est dit que certains eurent encore des doutes. Alors moi, si j'avais été le Seigneur, j'aurais passé le savon à ses disciples, hein. Les 11 qui étaient là. Merci Seigneur, Dieu fait des miracles. Mais le but des miracles, c'est d'amener les gens à la repentance. Et je crois que c'est ça que le peuple ne voulait pas entendre à l'époque. Matthieu, chapitre 14, verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Allez, fais miracle, afin que nous croyions. Et que répond Jésus? Une génération mauvaise et adultère recherche des signes. Il ne lui sera donné d'autres signes que celui de Jonas. Alors le signe, c'était la résurrection, mais quel a été le signe de Jonas? Qu'est-il arrivé au peuple de Ninive lorsque Jonas a dit, dans 3 jours, Dieu va détruire, hein, Ninive? Qu'ont-ils fait? Ils se sont repentis. Le miracle que Dieu a envoyé à travers Jonas comme information a touché les cœurs. Et c'est ça le vrai miracle. Ils se sont repentis. Quel a été le message de Jean-Baptiste? Il y a de la place pour les ouvriers de la 11e heure, il n'y a pas de souci. Quel a été le message de Jean-Baptiste? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quel a été le premier message de Jésus? Repentez-vous. Le message de repentance est plus grand de tous. Voilà donc 3 citernes. 1 Corinthiens 1,23 nous dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Alors voilà trois points d'eau. On a parlé de la citerne des œuvres, le puits de la sagesse et la fontaine des miracles. Mais comment recevoir cette eau? Comment être abreuvé par le Seigneur? Eh bien, pour recevoir, il faut s'approcher. Vous ne pouvez pas boire si vous restez, sauf si vous êtes sur la terrasse d'un café. Là, c'est le garçon qui s'approche. Mais à la maison, partout, vous ne pouvez pas boire si vous ne vous approchez pas d'un point d'eau. S'approcher, c'est avoir une attitude d'écoute de ce que Dieu dit. Nous ne pouvons pas boire n'importe quelle eau, mais l'eau que le Seigneur nous donne nécessite une attitude de notre part. Cette eau, c'est le Saint-Esprit qui nous donne, qui transforme nos vies, et cette vie qui jaillit et qui inonde tous les domaines de notre vie. Celui qui met en nous cette soif, c'est la personne de Dieu par le Saint-Esprit. Avez-vous demandé un jour à Dieu de créer cette soif en vous? As-tu un jour dit à Dieu, Seigneur, écoute, je me sens fade quand je lis la parole de Dieu, je me sens vide quand je viens devant toi. Mais peut-être la prière juste serait de dire, Seigneur, viens et donne-moi la soif de toi, la soif de cette eau qui ne manque pas. Le psalmiste a écrit ceci au psaume 42. Comme une biche assoiffée, après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, soif du Dieu vivant. Et quelle est la question qu'il pose? Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Tu as soif? Approche-toi. Dis au Seigneur, tu m'as fait une promesse. Cette promesse, c'est de venir et d'inonder ma vie. Je te demande de la réaliser pour moi. Après tout, c'est lui qui a fait cette promesse, non? Dis-lui avec sincérité, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Moi, j'ai l'impression parfois que quand je manque de paix ou de joie dans le Seigneur, vous savez ce que je fais? J'active la vitesse supérieure. Il faut faire davantage de choses. Il faut davantage pour avoir cela. Mais en réalité, la question de Dieu, c'est pose-toi et approche-toi. Seigneur, je te prie d'ôter de mon cœur l'attirance de ces sources d'eau, de ces puits, de ces fontaines qui m'attirent, mais qui m'éloignent de toi. Que dit Jésus dans Matthieu 11, versets 28 et 30? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Et moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Voilà une voix qui se fait entendre. C'est celle du Seigneur. Quand nous sommes débordés et pleins d'autres choses que de sa vie en nous, quelqu'un nous parle. Quelqu'un qui voit, quelqu'un qui entend et quelqu'un qui comprend. Ce Jésus n'est pas notre ennemi, il est notre ami. Venez à moi. Tout à l'heure, Jacques l'a bien dit. On ne peut pas, comme la manne, faire notre provision le dimanche une fois pour toute la semaine. Hein? Tous les jours. Et j'ai l'impression que ce venez à moi, c'est un venez à moi quotidien. Venez à moi. Ça veut dire ne reste pas seul à l'écart. Fais cette démarche d'aller à lui. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Vous savez, on a toujours nos fardeaux et on est tenté de garder ces fardeaux pour soi. Reposons-les, posons-les devant le Seigneur. Venez à moi. Que nous ne soyons pas seuls à chercher une solution, mais que nous puissions venir à Dieu. Alors, en conclusion, je dirais ceci. Le noyau de notre résistance, c'est en réalité de ne pas nous approcher de Dieu. On dirait, ça c'est bon pour les incroyants. Ils ne s'approchent pas de Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais combien de fois, toi comme moi, eh bien nous avons ce désir d'être dans la présence de Dieu. Mais nous gardons nos distances. Le matin, nous nous levons avec de bonnes intentions. Mais voilà que l'on embraye sur ceci, sur cela, etc. Et en fin de journée, on se dit, mais Seigneur, il y en a qui disent, Seigneur, où étais-tu? Mais Seigneur, je suis là. Mais toi, tu ne t'es pas approché de moi. Peut-être, nous le prions de temps à autre dans la journée, mais nous ne prenons pas le temps de nous poser et de le rechercher vraiment. Alors, si tel est notre cas, ne désespérons pas. Revenons à lui. Il nous attend, il nous aime. Et il t'aime parce qu'il est ce Dieu d'amour. Son amour est plus puissant que notre misère. Son esprit peut nous accorder de satisfaire notre faim par la manne, mais aussi notre soif par sa présence. Alors, apprenons à nous laisser aimer par lui. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors expérimentons ce que veut dire avoir cette eau en nous qui nous apaise jusque dans la vie éternelle. Faisons-lui cette demande sincère, comme la Samaritaine. Seigneur, donne-moi cette eau. Que Dieu vous bénisse. Amen.